Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Prison à vie pour 6 journalistes turcs accusés d'avoir œuvré au putsch manqué de 2016. Précision d'Anne Adlauer. Le président sud-africain s'engage à inverser le cours de la corruption et d'enterrer ainsi l'ère Jacob Zuma, discours suivi par Lisa Fabian. Demain s'ouvre la campagne interne au Parti social-démocrate, invité de cette édition, Hélène Miard-Delacroix, spécialiste de l'Allemagne. Enfin, le parquet classe sans suite la plainte pour viol visant Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics poursuit toujours la plaignante pour dénonciation calomnieuse. Un jour noir pour la liberté de la presse en Turquie. Reporters sans frontières réagit de la sorte à la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de 6 journalistes, parmi lesquels Ahmet et Mehmet Atlan et Nazil Ecak, 3 figures du métier. Le pouvoir les a assimilés à des agents du prédicateur Fethullah Gulen, auquel ce même pouvoir attribue le putsch manqué de 2016. Anne Adlauer nous appelle d'Istanbul.
Les 6 accusés, dont ces 3 célèbres journalistes, ont été reconnus coupables, entre autres, de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel. La justice a considéré qu'ils appartenaient au bras médiatique de la tentative de putsch de juillet 2016, fomentée, selon Ankara, par un prédicateur installé aux États-Unis, Fethullah Gulen. Mehmet Altan, son frère Ahmet Altan et Nazlı Ecak étaient accusés d'être membres du réseau de ce prédicateur, une allégation qu'ils ont toujours qualifiée d'absurde. Absurde, selon leur défense, comme les preuves versées au dossier, notamment leur déclaration lors d'une émission de télévision diffusée la veille du putsch, où les 3 journalistes auraient, selon la justice, envoyé des messages subliminaux annonçant le coup de force. Le procès de ces journalistes est d'autant plus symbolique que l'un d'entre eux, Mehmet Altan, aurait dû comparaître libre. C'est ce qu'avait ordonné en janvier la Cour constitutionnelle. Mais dans une décision sans précédent, le tribunal local avait refusé de le libérer après une mise en garde claire du gouvernement turc. Reporters sans frontières dénonce un jour noir pour la liberté de la presse en Turquie. RSF y voit un précédent désastreux pour les nombreux autres journalistes accusés d'implication dans cette tentative de putsch et rappelle que la Turquie détient le record mondial du nombre de journalistes professionnels emprisonnés, au moins 43 selon l'ONG.
Le massacre de 17 lycéens en Floride, la police fédérale américaine admet une grave défaillance et c'est chose rare. Le FBI reconnaît qu'elle aurait dû traiter comme une menace sérieuse une information qui attestait de la dangerosité potentielle du tueur, un jeune homme de 19 ans armé d'un fusil automatique. Et puis une agence russe de l'Internet, 2 autres entités russes, 13 ressortissants russes se sont immiscés dans le processus électoral américain de 2014 à 2016 dans le cadre d'une opération multiforme visant à soutenir le candidat républicain Donald Trump et a dénigré son adversaire démocrate Hillary Clinton. Ces phrases sont écrites par les services du procureur spécial Robert Mueller dans l'acte d'inculpation. À Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères qualifie d'absurde ces nouvelles accusations d'ingérence. Le successeur de Jacob Zuma, en charge de la présidence de l'Afrique du Sud depuis mercredi dernier, a posé en fin de journée les jalons de son mandat. Et c'est sans surprise qu'il prétend incarner le strict inverse de ce qu'aura montré celui qui a fini par démissionner. Lisa Fabian a suivi le discours de Cyril Ramaphosa.
Avec son discours sur l'état de la nation, Cyril Ramaphosa opère un retour aux sources du Congrès national africain de Nelson Mandela, le père de la nation qu'il a cité d'entrée de jeu. Souriant, volontiers espiègle, le nouveau président sud-africain a mis l'emphase sur le dialogue avec l'opposition et le respect du peuple, avec le souci affiché de fédérer et de ramener la confiance en Afrique du Sud. Ses propositions les plus fortes portent sur la lutte contre la corruption. Il a promis que les responsables de malversations seraient identifiées et que la justice les sanctionnerait. Cyril Ramaphosa entend notamment lutter contre toute forme de collusion dans l'attribution des marchés publics. Il a rappelé qu'une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État vient d'être nommée. Elle doit commencer son travail prochainement. Peut-être moins convaincant sur le plan économique, le nouveau président sud-africain a multiplié les appels du pied aux investisseurs étrangers tout en donnant des garanties à son parti, notamment sur la question de la redistribution des terres. Ces promesses parfois contradictoires risquent pourtant d'être difficiles à tenir dans un contexte budgétaire très difficile.
Correspondance de Johannesburg de Lisa Fabian. Il y a quelques heures, un membre influent de la CDU invitait la chancelière à composer un gouvernement minoritaire plutôt que de maintenir l'alliance avec les sociodémocrates. Voilà qui allonge la liste des fragilités prêtées à la coalition, péniblement, laborieusement échafaudée après des mois de négociations. Le SPD indésirable avec à compter de demain une campagne interne, un vote le 2 mars qui mènera la désignation du successeur du démissionnaire Martin Schulz. Et pour approfondir justement les défis du SPD, nous sommes en ligne avec Hélène Miard de la Croix. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Madame Miard de la Croix, le SPD apparaît comme toujours et encore un partenaire indésirable, pas fiable.
C'est-à-dire que depuis que le SPD est entré dans des négociations pour former un gouvernement après avoir dit qu'il n'irait pas au gouvernement, il vit crise interne après crise interne et on assiste assez désarmé à, en effet, une dislocation de ce parti avec des luttes internes entre jeunes et vieux, entre aile gauche et aile droite, favorable à une grande coalition, hostile à une grande coalition. Et c'est un spectacle assez affligeant qu'il donne à voir et qui affaiblit d'une certaine façon le gouvernement qui, a priori, devrait aboutir si jamais les militants donnent leur accord.
Alors Andreas Nahles est en lice, est en vue pour succéder à Martin Schulz. C'est l'aile gauche qui est en bonne voie. Andreas Nahles a été très critique en temps et en heure vis-à-vis par exemple de Gerhard Schröder.
Oui, si vous voulez, c'est historiquement l'aile gauche, parce qu'Andrea Nahles a été chef des jeunes socialistes, des Jusos, qui sont historiquement toujours l'aile gauche et la plus revendicatrice, si vous voulez, du parti. Sauf que progressivement, elle s'est embourgeoisée, si on peut dire, et elle est arrivée à la direction du parti, à la direction collective du parti. Et maintenant, elle revendique à la fois cette position de gauche, c'est-à-dire avec une exigence sociale de ce parti, et en même temps, elle représente la direction collective, qui est parfaitement engagée dans cette idée de grande coalition à reconduire avec la chancelière sortante, parce que c'est la seule façon d'avoir une majorité au Bundestag qui permette de former un gouvernement. Donc elle est un petit peu déchirée, si vous voulez, et son image est aussi très complexe, parce que c'est une personnalité qui a beaucoup de relief, qui est très très, très clivante, qui a un franc-parler, qui est courageuse, mais qui en même temps rassemble derrière elle des personnes très très variées, si vous voulez. Elle est au fond à l'image de ce parti très déchiré.
Peut-elle emporter l'adhésion des jeunes, et des jeunes qui peuvent peut-être faire valoir un passé ouvrier en tant que ressource?
Oui, si l'on veut. Alors c'est vrai que le parti est complètement déchiré par cette opposition entre les jeunes qui, donc, comme je disais, traditionnellement sont plus à gauche et qui estiment qu'une bonne cure d'opposition ferait du bien à ce parti social-démocrate, qui est donc une gauche réformiste, une gauche modérée qui se voit grignoter sur sa gauche par une gauche plus radicale, qui a du succès aussi dans d'autres pays européens. Et en même temps, c'est vrai que si les militants qui sont appelés à s'exprimer d'ici le 2 mars, il y a 463 000 personnes, militants, qui vont dire par écrit s'ils sont d'accord pour soutenir l'accord de gouvernement coalition ou pas, sont capables de mettre un terme à une tentative de former un gouvernement et en effet de placer le pays dans l'impasse, c'est-à-dire qu'en dehors d'un gouvernement minoritaire, il n'y a pas d'autre solution que de retourner aux urnes face à des électeurs qui sont extrêmement agacés par la façon dont leurs dirigeants se comportent avec le mandat qu'ils leur ont donné au mois de septembre.
Autre complication, si je puis dire, c'est à vous de nous le dire, mais le SPD est talonné par Alternative für Deutschland, l'extrême droite, et le FDP se droitise. Comment peut-il se reconfigurer en pareilles circonstances?
Alors ça peut être tout à fait un électrochoc, parce que un des avantages, si vous voulez, du travail que font les journalistes et des sondages d'opinion donne une idée de ce qu'est l'état de l'opinion face au SPD, et on voit que depuis le 24 septembre, où le SPD avait obtenu 20% des voix, c'est-à-dire le pire résultat de toute son histoire, il aurait dégringolé à 16%, c'est-à-dire juste un point avant la FD, ce qui pourrait, je pense, être une espèce d'électrochoc pour les militants, qui peut-être tentés par cette cure d'opposition peuvent se dire que non, la responsabilité historique de ce parti est d'assumer le pouvoir lorsqu'il le faut, parce que si jamais on retourne aux urnes, si le SPD dégringolait derrière le parti populiste de droite, ce serait vraiment la fin de ce parti dont il faut bien se représenter qu'il a l'air faible et un petit parti. C'est le grand parti ouvrier, de tradition ouvrière d'Allemagne, créé en 1873 et qui a porté des gouvernements très très efficaces Hamas, Willy Brandt, Helmut Schmidt, enfin, Gerhard Schröder aussi, enfin, c'est très dramatisé, si vous voulez. Donc, ces mauvais résultats qu'on voit dans les sondages peuvent faire cet électrochoc et conduire la base à aller vers l'idée d'une grande coalition pour permettre au gouvernement de quand même reprendre la main.
Bon, merci infiniment. Merci Hélène Miard de la Croix. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. 22h10, vous écoutez le journal de France Culture. La procédure pour viol visant le ministre des Comptes publics, classé sans suite, annonce cet après-midi du parquet de Paris. L'enquête n'a pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante, ni l'existence d'une contrainte, d'une surprise ou de violence sur sa personne. Une seconde enquête visant Gérald Darmanin, cette fois pour abus de faiblesse, suit son cours. Camille Magnard.
Cette plainte classée sans suite, c'est la première à avoir visé le ministre Darmanin. Plainte pour viol, donc, sur des faits remontant à 2009. Une femme accusait celui qui travaillait à l'époque au service des affaires juridiques de l'UMP de l'avoir forcé à un rapport sexuel alors qu'elle était venue le voir pour lui demander d'intervenir en sa faveur auprès de la justice. Elle voulait faire effacer de son casier judiciaire une condamnation pour chantage. Selon les avocats de la plaignante, Gérald Darmanin avait obtenu son consentement sexuel par la surprise, l'une des quatre circonstances qui peuvent être retenues pour caractériser un viol. Mais le parquet de Paris conclut donc que cette circonstance ne tient pas, que l'absence de consentement n'est pas caractérisée. Juridiquement, on ne peut donc pas parler de viol et la plainte est classée sans suite. Ce qui reste par contre, c'est cette deuxième plainte déposée par une habitante de Tourcoing, la ville dont Gérald Darmanin était le maire. Elle explique qu'elle était venue voir l'élu pour lui demander de l'aide pour obtenir un meilleur logement social et il lui aurait en échange fait des propositions à caractère sexuel. Dans cette deuxième et désormais unique affaire Darmanin, une enquête préliminaire a été ouverte mardi. Les magistrats qui en ont la charge font savoir qu'ils ont demandé de nombreux actes d'investigation.
C'est une information que l'on doit à nos confrères de France Inter. La juge d'instruction en charge de l'affaire de l'arrestation de Théo Aouné-sous-Bois pourrait ne pas poursuivre le brigadier mis en cause. Selon une expertise médicale, le coup de matraque porté par le policier n'est pas contraire, je cite, aux règles de l'art, bien qu'il ait provoqué la déchirure du sphincter du jeune homme sur 10 cm, ce qui pourrait provoquer une requalification des faits. La très controversée circulaire sur le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence examinée aujourd'hui en urgence devant le Conseil d'État. Il était saisi par une vingtaine d'associations qui dénoncent un tri assumé par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Florence Sturm a assisté à l'audience.
Pour Maître Patrice Spinozzi, le Conseil des associations, le débat se résume en deux questions. Les agents de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont-ils ou non compétence pour entrer dans les centres d'hébergement ? Deuxième question, ont-ils le droit de collecter et traiter ces données ? Pour lui, la réponse est clairement non et la circulaire porte atteinte à la vie privée et aux intérêts des associations concernées. Le défenseur des droits s'est rangé à leur côté. Les travailleurs sociaux dénoncent une rupture de la relation de confiance avec les personnes hébergées. Les gens ne veulent plus aller dans ces centres, témoigne le d'eux, elle se méfie de nous. Dans le décor d'habitude feutré et policé du Conseil d'État, le débat juridique se teinte de passion, argument contre intention politique, qu'on ne se trompe pas, lance la représentante de l'État. Toutes les personnes n'ont pas un droit équivalent à bénéficier de ces centres. Ce sont bien sûr les étrangers dont il est question, mais le but de cette circulaire n'est pas de débusquer les gens en situation irrégulière, poursuit-elle. Le débat posé aujourd'hui l'est aussi en termes d'urgence. Circulaire exécutoire et exécutée, dénonce les associations, quand le ministère de l'Intérieur explique être intervenu auprès des préfets pour quelques recadrages. Il prépare un vademécum qui devrait préciser les contours de la circulaire sans toutefois pouvoir le produire à l'audience. Les sages, eux, devraient rendre une décision d'ici une huitaine de jours.
Florence Sturm, extension du périmètre de la mobilisation des personnels des établissements et services pour personnes âgées. Le 30 janvier dernier, les salariés des EHPAD avaient défilé pour de meilleures conditions de travail sans obtenir les mesures et aides ambitionnées. Le mouvement programmé au 15 mars s'adresse cette fois à tous les établissements, hôpitaux gériatriques, unités de soins de longue durée et maisons de retraite non médicalisées. Jackpot pour les actionnaires et dirigeants de Renault et des miettes pour les salariés, slogan signé Sud et CGT. Les deux syndicats dénoncent, je cite, une baisse inacceptable des primes d'intéressement, alors que le groupe annonce un bénéfice net de 5,1 milliards d'euros en 2017, appel à la mobilisation pour les prochains jours. Enfin, des milliers d'Israéliens ont défilé et réclamé aujourd'hui à Tel Aviv la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Première manifestation depuis que la police a recommandé son inculpation pour corruption. La police indienne a perquisitionné les bureaux de Gitanjali, société de négociation négoce en pierres précieuses, dont le patron est accusé de collusion avec des employés de la Punjab National Bank. L'enquête pour fraude porte sur un montant estimé à 1,77 milliard de dollars. Enfin, quelques mots de la météo pour la France, avec le temps de demain samedi dans les grandes lignes. Temps perturbé du sud-ouest au nord-est de la France, avec un épisode neigeux sur le nord-est, des pluies continues sont attendues du Massif central à la Bourgogne-Franche-Comté, de la neige jusqu'en plaine sur le nord-est.